continué de se reprendre de façon spectaculaire et progressé de 38%, mais à moins de 5 euros, l'installateur de compteurs reste encore loin de son cours avant sa suspension de cotation et le différend révélé avec ses commissaires aux comptes. Le marché parisien, par ailleurs, a bénéficié du nouveau recul des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Le Dow Jones, de son côté, progresse actuellement de 0,4%. C'était Cécile Lecoz d'Investir pour RFI.
Radio France Internationale en direct de Paris. Il va bientôt être 18h10. Bonne suite des programmes à toutes et à tous.
Radio G. www.radio-g.fr.
Cela fait 100 ans que les médias radio existent. Durant un siècle, de nombreuses émissions ont révélé de grands talents de la chanson.
Cette année, on vous propose de découvrir de nouveaux artistes dans l'émission Radiovision.
Ils se sont inscrits, vous avez écouté et voté pour leur chanson.
Écoutez les résultats samedi 5 juin à 21h sur cette antenne.
Ou sur radiovision.fr pour la grande soirée Radiovision 2021.
L'écoute de l'oreille curieuse, la quotidienne de Radio G, consacrée aux actualités culturelles et locales et à d'autres trouvailles qu'on a envie de mettre dans cette émission. Je vous espère en forme derrière votre transistor, votre poste. Vous avez entendu parler des 100 ans de la radio. On fera d'ailleurs une émission spéciale lundi prochain avec Radio Campus Angers. Rendez-vous lundi, on en parlera plus tard, mais pour l'heure, le programme de ce soir. On est jeudi, alors nous aurons le plaisir de retrouver Benoît et la chronique Science, Nature et Environnement. Rendez-vous en deuxième partie d'émission, on découvrira ensemble s'il sera question de recherche de biodiversité ou des deux. Il y aura également un reportage sur le dispositif du service civique, un autre rendez-vous du jeudi. Et nous avons un invité, une thématique actuelle et culturelle, c'est le théâtre du champ de bataille qui sera avec nous dès le début de cette émission. Derrière le micro, comme tous les jours, mais pas pour toujours, c'est Annelie. Et j'ai choisi un proverbe. Non, c'est pas un proverbe ce soir, c'est une citation. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. C'est une citation de Cocteau. Voilà pour l'introduction. Je vous propose d'ouvrir cette émission en musique avec le premier titre de Chahut. Chahut, c'est un artiste angevin. On le retrouve dans Dogs for Friends. Et il a un projet solo, cette fois-ci un projet francophone. C'est de la chanson et des instrus tout à fait actuels. Moi, j'ai été conquise par ce premier titre. Son premier EP va sortir début juin, si je ne me trompe pas. Le titre qu'on va écouter, c'est Décor. Et je vous invite à suivre Chahut et la suite. On découvrira ça.
Que t'aurais pu danser devant moi, danser. j'arrive plus à voir. À chaque fois je t'en sens, je m'en suis pas remis de celle-là. Elle était patate, elle avait des formes, des couleurs dans la tête, et on n'entendait plus le ciel quand il grondait. Et je l'écoutais parler de comment elle m'aimait. J'arrive pas à danser, j'arrive pas à croire que t'aurais pu danser devant moi. Danser, j'arrive plus à penser, j'arrive plus à voir. À chaque fois je t'en sens.
Alors ce soir, on parle de théâtre avec le champ de bataille et je suis en ligne avec Florent Goulet. Bonsoir Florent.
Bonsoir.
Tu es directeur programmateur du théâtre du champ de bataille à Angers, bien sûr. Et comme beaucoup d'autres lieux, vous réouvrez en ce moment, prochainement. En tout cas, c'est un moment où on est heureux de vous retrouver. Vous allez pouvoir retrouver le public. Mais peut-être en quelques mots, comment se sont passés les derniers mois pour vous? Parce qu'il n'y a pas eu de spectacle programmé, pour autant l'activité a continué. Il y a eu des résidences par exemple.
Oui, bah, en fait nous on n'a pas arrêté d'accueillir les artistes puisqu'on avait le droit d'accueillir des compagnies professionnelles en résidence. Donc en tout on a eu 21 semaines à peu près de résidences qui ont donné lieu pour une grande majorité d'entre elles à des présentations aux professionnels, puisque ça, on avait le droit de montrer des spectacles à des programmateurs, des institutions et puis quelques personnes en plus, voilà, afin de, bah, de terminer les spectacles quand même, parce que beaucoup devaient être joués pour la première fois cette saison et puis qu'ils soient quand même vus par les pros, qui puissent le programmer la saison suivante, même si les saisons sont, qui s'annoncent sont embouteillées en spectacle. Voilà, donc on a pu continuer à accueillir les compagnies et à maintenir certains ateliers, théâtre, notamment pour les enfants et les ados. Voilà.
Ouais, et ça, avec l'identité du champ de bataille aussi, qui est un lieu de découverte, de programmation, de jeunes compagnies, c'est important que ça ait pu continuer.
Oui, oui, et puis bah, que les compagnies puissent terminer les spectacles, parce que nous on souvent les résidences qu'on accueille sont des résidences de fin de création, donc très souvent les compagnies viennent en résidence et puis la semaine suivante jouent les premières, donc c'est important qu'ils puissent aboutir le travail, faire des captations vidéo pour certains, puis va le présenter une première fois pour que le spectacle ait déjà une première existence. Et voilà, parce que l'année prochaine dans les théâtres, ça va être compliqué de trouver des créneaux pour jouer, mais aussi ne serait-ce que pour aller en résidence. Donc, et puis ça a permis de continuer à faire vivre le lieu, à donner aussi des perspectives aux artistes et aux techniciens dans une période qui est pas simple pour beaucoup de gens, mais pour eux aussi, quoi. Donc ça donnait aussi une perspective d'avoir ces présentations pro ou ces captations. Sachant qu'on a pu indemniser toutes les compagnies aussi, donc voilà, il y avait aussi cet aspect des choses qui est important d'avoir à la fois indemnisé les compagnies et reporter les spectacles en grande partie la saison prochaine.
Alors pour les retrouvailles avec le public, vous avez fait le choix d'un peu de patience, si j'ai bien compris, puisque le prochain spectacle ce sera le 9 juin.
Oui, alors on a la possibilité de réouvrir depuis le 19 mai, mais en jauge 35%, c'est-à-dire pour nous 32 spectateurs. Donc c'est compliqué de réouvrir pour aussi peu de spectateurs. Et le 9 juin, pour le coup, on aura la possibilité de passer à 2/3 de la jauge, donc soit une soixantaine de spectateurs. Donc là, ça devient un peu plus viable pour les compagnies comme pour nous. Et donc on a symboliquement calé un spectacle professionnel le 9 juin qui s'appelle Un océan d'amour, qui aurait dû être programmé dans la saison, puisque normalement chez nous, mai et juin, c'est la saison amateur. On accueille plus de professionnels, mais des ateliers théâtre, des compagnies amateurs. Et la saison amateur va commencer le lendemain, le 10. Donc on voulait quand même symboliquement terminer la saison régulière, professionnelle, par ce spectacle qui a un titre évocateur pour la suite, on l'espère, Un océan d'amour. Voilà, donc c'est un spectacle tout public à partir de 7 ans. Et pour nous, ce sera la fin de la saison professionnelle qui aura été un petit peu modifiée, dirons-nous.
Ouais. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est une belle promesse, Un océan d'amour. Donc le 9 juin, il y a une représentation à 15h, une représentation à 19h.
C'est ça.
C'est un tarif unique à 5€. C'est proposé par la compagnie La Salamandre et c'est adapté d'une bande dessinée de Wilfried Lupano et Grégory Panassion. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire qu'on voit dans cet océan d'amour? Il y a l'océan, il y a la mer, il y a une enquête, enfin je sais pas si c'est une enquête, mais en tout cas une quête.
Oui, c'est un pêcheur qui tous les matins, qui breton, qui tous les matins part avec son bateau et un jour il ne revient pas le soir, donc sa compagne l'attend. Et puis au bout d'un moment, elle décide de partir à sa recherche et là, ça devient une grande épopée à travers les continents, à la recherche de son mari. Ils vont se croiser, se rater parfois, ils vont leur arriver chacun dans leur côté. Plein d'aventures et jusqu'à un dénouement plutôt heureux, on va dire. La compagnie en fait a monté le spectacle en théâtre en manipulation théâtre de papier, c'est-à-dire c'est vraiment que de la manipulation de papier, il n'y a pas de texte. Et c'est très 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 marrant, enfin c'est très très drôle. Les deux sont comédiens, manipulateurs, sont un peu barrés quoi. Donc c'est très drôle, très décalé, très accessible. Moi je l'ai vu avec des enfants de 6-7 ans et des adultes. Les adultes riaient autant que les enfants, presque plus. Donc c'est vraiment un joli moment à passer en famille. Mais même en tant qu'adulte, on peut y aller seul. Et voilà, je pense que ça peut plaire vraiment à tout le monde. Et il y a plein de petits détails, plein de petites choses très burlesques. Voilà, donc c'est un joli moment, je pense.
Ouais, on peut voir un extrait vidéo sur votre site où on sent, voilà, c'est un théâtre de papier, donc de petits moyens, entre guillemets, mais oui, avec ces petits objets, ces pliages, des projections, il y a des scènes qui naissent vraiment sous nos yeux, même si on voit les acteurs manipulateurs, ça embarque, quoi.
Oui, et puis ça fait appel, c'est le théâtre d'objets en général, mais effectivement, ça fait appel à l'évocation, à notre imagination, et puis là, il pousse vraiment le trait assez loin sur certains aspects, donc c'est très absurde aussi. Alors, il y a bien évidemment des très jolis moments assez émouvants dedans, voilà, c'est un spectacle qui est vraiment tout public, dans le sens où on passe un bon moment en famille, quoi.
Quel que soit son âge.
Voilà.
C'est adapté d'une BD où il n'y avait pas de phylactère, c'est le terme technique. Il y avait des dialogues, mais pas les mots. Il y avait aussi cette envie de faire travailler les lecteurs. Un océan d'amour, donc c'est le titre, la compagnie La Salamandre, le 9 juin, à 15h ou 19h.
Oui, alors à 15h, je crois que c'est quasiment complet. À 19h, il reste des places, mais il en reste quelques-unes, quoi. Donc faut pas hésiter, les réservations se font uniquement sur notre site web pour l'occasion. Voilà, on est resté un peu prudent en se disant que c'est beaucoup plus simple pour nous si on doit annuler, et puis aussi que remettre la billetterie en route, tout ça c'est pas si évident que ça, donc sur le site web c'est beaucoup plus pratique pour nous.
Bon, on a toutes les infos pour ce spectacle. Et tu nous disais, le lendemain débute la traditionnelle saison des amateurs.
Oui.
On pourra découvrir trois spectacles. Oui. Est-ce que tu as envie de nous les raconter, nous les présenter?
Alors, les projets qu'on accueille, moi, je connais bien les compagnies et je suis en échange avec eux, mais je connais mal les projets, puisque pour nous, la saison des compagnies amateurs, c'est l'occasion de proposer des conditions d'accueil professionnelles à des compagnies amateurs qui peuvent jouer une fois, deux fois, quatre fois. Certains restent toute la semaine. Donc c'est un soutien au théâtre amateur en général. on privilégie quand même les compagnies qui montent des auteurs contemporains parce que c'est notre credo tout le long de la saison. Mm-hmm. Mais j'ai pas de, je sais pas des spectacles que je connais artistiquement, je peux difficilement en parler. Il y a des informations sur notre site web pour
sur le synopsis,
pour les gens que ça intéresse, ouais. Mais il y a quand même, il y a pas, on sélectionne pas des compagnies sur l'artistique, même si certaines on les connaît bien et on sait que habituellement le travail est de très très belle qualité. C'est les trois compagnies un peu survivantes, puisqu'au début on devait en avoir en tout 7 ou 8, mais beaucoup ont pas pu répéter dans la saison. Malheureusement, donc on était obligé d'annuler leur venue. Là, ce sont trois compagnies qui avaient prévu de jouer l'année dernière au Théâtre du Champ de Bataille. Donc c'était un report de la saison dernière où les spectacles sont déjà créés. Et voilà, je peux pas en dire beaucoup plus sur le contenu artistique des
projets. Oui, c'est aussi des moments de découverte. Je peux vous donner les titres et un petit peu les histoires dans les très très grandes lignes, puisque je n'ai pas vu non plus ces spectacles, évidemment. On verra Livret de famille les 11 et 12 juin. Là, ce sont deux frères que tout semble opposé qui vont passer une nuit à parler. Je n'en sais pas plus. Il y aura Les Corruptibles, où là on est plus dans une enquête dans un grand manoir où un gardien est retrouvé décapité. Alors si on aime le Cluedo, peut-être ce sera le 24 juin.
Je pense que Les Connaissances et la compagnie Les Enjoués, oui. c'est une comédie, voilà.
Ça ne fait pas peur.
Non, ça fait plutôt rire.
Ouais, donc le 24 juin, et puis enfin La Vieille Terre enfante encore des Vénus, qui là est proposée par la compagnie Les Trois Métamorphoses. Merci, je lis très mal mes notes. Ce sera le 27 juin, il y a deux représentations. Et il y a un lien entre un poème de Maupassant, La Vénus rustique, et puis le meurtre de Laetitia. En janvier 2011, donc un fait dramatique réel et un poème qui sont mis en relation.
Alors en théâtre et musique, puisqu'il y a des musiciens sur scène aussi, alors pareil, je suis en lien avec la compagnie bien évidemment, mais sur le projet c'est tout à découvrir. Les trois sont des créations, donc ce sera les premières aussi pour eux. Et donc ils seront eux aussi en jauge 60 personnes, voilà, puisque on sera encore contraint par ça, mais ce sera des créations et pareil, toutes les réservations doivent se faire sur le site pour que ce soit plus simple pour tout le monde et pour nous notamment.
Et donc les infos plus détaillées sont en ligne sur le site du Champ de Bataille. Florent, pour finir, peut-être comment s'annonce la saison prochaine? Tu le disais tout à l'heure, vous anticipez aussi une saison compliquée en termes de dates, de programmation. Quelles sont un peu les projections qui peuvent être les vôtres?
Alors compliqué, nous on est parti sur une saison classique, c'est-à-dire ce qu'on sait faire, une saison avec une vingtaine de spectacles, de compagnies de la région Pays de la Loire, des créations. On a sur la vingtaine, on a une dizaine de reports de la saison dernière. On a reporté tous les spectacles qui étaient en création. Il y a certains spectacles qu'on a choisi de pas reporter parce qu'on voulait aussi passer à autre chose, et que dans cette histoire on perd tous un peu quelque chose, quoi. Donc j'ai pas cherché en tout cas à rattraper le temps perdu. On a fait des choix pour à la fois proposer des spectacles qui étaient prévus l'année dernière, mais aussi des nouvelles créations, des compagnies qui travaillent en ce moment pour la saison prochaine ou qui travailleront dans les mois qui viennent, avec un renfort du soutien à la création de notre côté, puisqu'on a eu des aides supplémentaires, notamment de la région Pays de la Loire. Donc voilà, on avance sur une saison classique. On n'a pas fait plus de dates parce qu'on s'est dit aussi que ça serait compliqué, peut-être, même si l'engouement en ce moment est notable, ce serait peut-être compliqué d'ajouter des dates partout parce que ça veut dire plus de spectateurs potentiels et c'est pas évident que les gens aillent beaucoup beaucoup plus au théâtre, donc on n'a pas voulu créer d'embouteillage dans la programmation, on a fait des choix. Et on a laissé la place aux nouvelles créations aussi pour respirer. Avec tout ça, le planning est quand même extrêmement chargé pour nous l'année prochaine, parce qu'il y a beaucoup de résidences aussi de reprises pour reprendre les spectacles qui ont été créés. Les artistes vont avoir besoin de de répéter encore. Donc on a un planning bien plein, mais pas plus de représentations, pas plus de spectacles. Une saison très classique chez nous. Voilà quoi.
Et quelque part, c'est ce qu'on souhaite, une saison un peu comme d'habitude.
On va se souhaiter d'être une saison normale. C'est un peu dommage de le dire comme ça, mais en tout cas, il y a des choses très excitantes. Il y a plein de choses que j'ai très envie, de proposer dans les spectacles qui ont déjà été créés, que pour le coup, moi, j'ai vu en séance professionnelle et qu'on confirmait qu'on avait très envie que le public puisse assister à ces spectacles. Et puis dans les nouveaux projets, on a vraiment... Pour le coup, c'est une saison avec moins de prise de risque puisque il y a moins de créations réelles. La plupart, on les a vues. Il y a quand même quelques nouveautés que j'ai très hâte de voir aboutir ici. Mmh. Et il y a plutôt un équilibre. Il y a beaucoup de questionnements aussi sociétaux, comme souvent, mais l'année prochaine, notamment autour du changement climatique ou des changements sociétaux qui peuvent nous attendre. Il y a beaucoup cette question-là qui revient dans les textes montés la saison prochaine. Donc il y a aussi matière à réfléchir, à découvrir tout ça. J'avoue que professionnellement, j'ai hâte d'être en octobre. Mmh. Pour écrire cette nouvelle histoire.
Bon, et on découvrira avec plaisir cette nouvelle saison, le moment venu. Toutes les informations et pour réserver se trouvent sur votre site www.champdebataille.net. Je signale aussi qu'il y a une exposition en ce moment et jusqu'au 2 juillet de Aurore Besson, qui est plasticienne, à découvrir les après-midi, sauf le mercredi et le week-end et les soirs de spectacle. Florent, je crois qu'on a balayé cette fin de saison du champ de bataille.
Oui.
Et bien, merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup.
C'était Jade Bird, Open Up the Events, dans l'oreille curieuse sur Radio G. Et maintenant, on va parler du volontariat en service civique, juste avant de retrouver la science, la nature et l'environnement avec Benoît.
engagés de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Olivier Robin était en mission de service civique à la radio Neptune FM durant 8 mois, du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2018, avec des attentes personnelles bien précises.
Alors le but personnel pour moi, c'était d'arriver à mener à bien des projets. Du coup, quand j'étais à Neptune FM, j'avais trois émissions que j'ai pu presque entièrement créer, animer et réaliser. De savoir où est-ce que je voulais aller, ce dont je voulais parler, comment est-ce que je voulais le faire et avec quel support. Donc ça m'a pas mal apporté sur le plan personnel.
Après ce service civique, Olivier Robin s'est orienté vers une nouvelle voie professionnelle et recherche un travail.
Maintenant je suis dans la vidéo, plus du tout dans tout ce qui est radio, audio, etc. Donc l'orientation professionnelle, c'est pas ce service civique là qui m'a permis de me mettre dedans, mais par contre ça m'a quand même beaucoup apporté en termes d'expérience, même si je m'en sers pas aujourd'hui. Et maintenant j'hésiterai pas à changer de voie pour aller travailler dans la radio maintenant que je sais que ça me plaît bien. J'ai fini mes études à l'été 2020, en BTS audiovisuel, et du coup maintenant j'attends, on va dire, de trouver du travail. Maintenant que tout est un peu bouché, j'attends que tout se relance encore un peu. C'est du montage de films, montage de clips, de courts-métrages. Il y a aussi un petit peu de réalisation là-dedans. Et voilà, c'était sur 2 ans.
Pour Olivier Robin, avec du recul, ses missions au service des autres étaient positives.
Moi j'ai eu une bonne expérience avec le service civique. Donc il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs. Même je sais même pas s'il y a vraiment des points négatifs, à part le fait que aujourd'hui maintenant je suis dans un domaine qui est pas du tout celui de la radio. Mais en termes de points positifs, Il y a un accompagnement quand même. Pendant 8 mois, on a l'occasion de se développer.
Est-ce qu'après ce service civique, tu étais plus serein sur l'avenir et t'avais plus confiance en toi?
J'avais quand même déjà assez confiance en moi, mais ouais, ça m'a encore plus apporté. Ça a quand même été une bonne expérience avec une bonne équipe aussi quand même. Du coup, c'est une super expérience pour savoir un peu où est-ce qu'on en est et si on est vraiment sûr de ce qu'on a envie de faire.
Si ce serait à refaire, te réengagerais-tu?
Si c'était possible, ouais, je referais un service civique parce que c'était une bonne expérience. Je suis très satisfait moi de comment ça s'est passé pour moi, donc il n'y aurait pas trop d'hésitation si c'était à refaire. Je m'étais renseigné justement pour essayer d'en refaire un, et on peut en faire qu'un seul, le service civique.
Est-ce que pour toi ça serait important qu'une personne puisse faire un ou deux ou trois services civiques?
Moi j'aimerais bien, ouais, que ce soit possible de faire ça. Après peut-être d'en faire dans d'autres domaines, mais ouais, pour moi ce serait important de pouvoir en faire plusieurs.
Pour conclure, Olivier Robin conseille l'engagement en service civique à son entourage.
Alors je le conseille assez souvent. Dès que j'ai des potes à moi qui font rien parce que c'est compliqué en ce moment avec le contexte, je leur conseille toujours de faire le service civique. Parce que on a cette expérience professionnelle là. Donc je leur dis de faire ça vite parce que on peut le faire jusqu'à 26 ans. Et puis ça apporte toujours quelque chose d'avoir une expérience en attendant de trouver du travail. S'il y a des gens qui savent pas trop où est-ce qu'ils en sont, ils peuvent faire un service civique pour avoir vraiment une idée de qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le domaine qui les intéresse le plus. Pour moi c'est important. Enfin moi ça m'a beaucoup aidé. Ouais.
Laurent, Radio Neptune FM, Adil Dieu.
C'était Volontaire en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Et
ça y est, vous avez reconnu le générique célébrissime de la chronique Science, Nature et Environnement, qui est proposé un jeudi sur deux par Benoît. Benoît, est-ce que tu es avec nous ?
Oui.
Eh bien, nous t'entendons très bien et nous sommes ravis de te retrouver.
Bonsoir Annie et bonsoir à tous.
Alors, qu'as-tu mis dans la chronique de ce soir ?
Alors, dans la chronique de ce soir, qui va être orientée environnement, on va parler des sols. Mmh. Et notamment du problème de l'artificialisation des sols. Je vais essayer de mieux le prononcer. Et puis, de comment faire pour plutôt réhabiliter les sols et comment leur faire jouer un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique.
Autant dire voilà. un sujet immense, quoi.
Bah, immense et en même temps, tu vas voir, c'est... Bon, je vais essayer d'être synthétique, mais je crois que j'en ai au moins pour 10 minutes.
Allez, c'est parti.
Alors, on y va ? Ouais. C'est parti. Alors, on va d'abord évoquer le problème de l'artificialisation des sols. Mmh. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est un sol ? Un sol, ça résulte de la dégradation des roches sous l'action du soleil, du vent, encore de la pluie, et aussi des êtres vivants, les animaux, les plantes participent à la dégradation des roches. Et il faut 2000 ans pour que se crée une couche de 10 cm de sol fertile. Donc c'est beaucoup, et c'est un processus très lent, mais sur un sol fertile, et ben c'est un terreau pour la vie. Donc, et là, c'est un sol que nous épuisons seulement en quelques années, et quand on fait disparaître un sol, il est perdu à jamais en fait. Ouais. On ne peut pas reconstituer, s'il y a des travaux de recherche sur la reconstitution de sol artificiel, etc., mais un vrai sol naturel qui a mis 2000 ans, plusieurs centaines et voire des milliers d'années à se faire, eh bien, on ne peut pas le reconstituer. Quand il est perdu, il est perdu. Alors, il s'avère que les sols, on peut malgré tout les protéger par des plantations, notamment les forêts et les plantes, ça protège le sol. Pourtant, chaque année, c'est 13 millions d'hectares de forêts qui sont défrichés et les champs qui sont exploités de façon inadéquate. Donc, si tu ajoutes à ça les monocultures, l'exploitation des versants, ça se complique. Et d'autant plus que dans les méthodes modernes d'exploitation, les sols restent à nu après les récoltes sans aucune protection. Donc ça accélère évidemment l'érosion et la disparition des sols. Donc pour la seule année de 2012, il y a le chiffre de 24 milliards de tonnes de sols fertiles qui a été dissipé par le vent ou emporté par les pluies en une seule année. C'est une perte de, par habitant, par terrien, on va dire, hein, c'est une perte de 3,4 tonnes par personne, par année. Donc c'est assez faramineux, mais ça c'est complètement invisible. Personne, très peu de gens en ont conscience, en tout cas pas dans le grand public. Et c'est quelque chose qui coûte cher à chaque terrien, ça coûte 60 euros par an. Donc c'est 420 milliards d'euros à l'échelle mondiale. 420 milliards d'euros, c'est complètement hallucinant. Donc, à côté de ça, les villes se développent très vite. Chaque année, en Europe, c'est l'équivalent d'une ville comme Berlin, qui est transformée en espace urbain. Donc, et la moitié de ces espaces-là, ils sont complètement scellés. Hein. C'est bétonné, de l'asphalte, il n'y a plus rien qui pousse. Ouais. Donc, il y a disparition complète du sol. Donc, les sols fertiles, c'est une ressource limitée à l'échelle de la planète. C'est extrêmement précieux. Et les investisseurs et les États l'ont bien compris. Et donc, il y a une course des investisseurs, des propriétaires pour s'accaparer les sols et souvent avec des moyens douteux et à des fins douteuses. Hein. Donc c'est compliqué. Donc tous les ans aussi, c'est les millions d'hectares de terre qui changent de main, qui sont achetés par des investisseurs, etc. Donc ça occasionne des désastres économiques, sociaux, des familles déracinées, voilà. Et évidemment, les plus touchés sont les plus démunis. Mmh. Donc c'est vraiment dommageable. Mais ces gens-là, ils ont rarement le choix parce qu'ils ont besoin d'avancer et ils ont besoin de terre. Eux-mêmes détruisent des forêts pour survivre. Dans beaucoup d'endroits, on exploite effectivement la forêt de manière industrielle, mais il y a beaucoup d'endroits où on déforeste simplement pour cultiver de quoi manger, en fait. Mmh. Alors, le problème n'est pas si simple que ça. Donc, plus que jamais, il nous faut des terres saines et fertiles. Donc, on estime que d'ici à 2050, Il y aura sur Terre moitié moins de terres arables disponibles par tête d'habitant dans le monde par rapport à aujourd'hui. Donc ça va être énormément compliqué nos ressources alimentaires aussi.
Oui, sachant qu'a priori on serait plus de terriens et terriennes.
Exactement. Alors, il faut savoir aussi que déjà aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes qui se couchent tous les soirs le ventre vide sur Terre. Donc, alors, c'est des chiffres qui datent de 3-4 ans. Ça ne va pas aller en baissant. Je pense que ça n'a pas baissé. Donc, si on n'augmente pas, il faut à un moment donné qu'on distribuons les terres équitablement et qu'on augmente aussi sensiblement le rendement des portions de terre, parce que sinon la solution ça va être de partir sur une autre planète, et pour l'instant il ne faut pas trop compter là-dessus. Donc la question des sols, elle mobilise vraiment trop peu notre attention, et notamment l'attention des décideurs politiques. Donc nous on va faire les courses, tout est rempli, on se serre dans les rayons et on croit que ça sera toujours comme ça. Et bah, hélas, ça sera vraisemblablement pas le cas. Mais on sait aujourd'hui comment préserver les sols. Le sol, c'est une matière vivante, fertile. On a besoin de s'en occuper. C'est quelque chose qu'il faut choyer. Donc, le droit au sol, le droit à la terre, c'est un droit pour tout le monde qui doit être sauvegardé aussi. Ça doit être inscrit dans la loi. Et c'est le fondement de notre vie. On ne peut pas laisser disparaître ça sous le goudron, en fait. Et on a les cartes entre nos mains. Alors, il y a un levier qui est dans l'actualité depuis quelque temps, et qui est une initiative qui est issue de la COP21. Il en avait été beaucoup de questions, donc je crois que c'était en 2015, je ne sais plus en quelle année c'était la COP21.
Ouais, ça devait être
Ouais, c'était dans ces années-là. Et il y a une initiative qui a fait un peu parler d'elle, même si, bon, j'ai l'impression qu'on l'a vite oubliée. Alors, je me suis dit, je vais quand même en reparler dans la chronique pour les quelques auditeurs que ça intéresserait. C'est l'initiative du 4 pour 1000. Alors, qu'est-ce que c'est l'initiative du 4 pour 1000? Donc, il faut savoir, les activités humaines, elles ont un impact sur le climat, le climat global, par l'émission de grandes quantités de carbone, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc ça augmente l'effet de serre, ça accélère le changement climatique. Il faut préciser que chaque année, il y a 30% du CO2 qui est récupéré par les plantes. Ça c'est par la photosynthèse. Mais quand la plante elle meurt et qu'elle se décompose, eh bien les organismes vivants du sol, les champignons, les bactéries, les vers de terre, etc., vont transformer cette matière organique. Et du coup, le carbone des plantes, il est intégré au sol. Donc, du coup, ça va enrichir le sol, et ça va permettre aux hommes de l'utiliser et à d'autres plantes de pousser. C'est énorme, c'est très important. Donc, il faut savoir que dans le monde, les sols contiennent 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère. C'est là que réside toute la subtilité de la proposition 4 pour 1000. Si on augmente le stock de carbone de 0,4% dans les sols, soit 4 pour 1000, dans les 30 premiers 40 cm de sol à l'échelle de la planète, on pourrait stopper en fait l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Et disons que ça ferait un équilibre. Alors, c'est une solution à court et moyen terme. Il ne faut pas se dire, on va s'occuper de nos sols et on va enrichir nos sols en carbone. Et puis à côté, à tout va... multiplier nos émissions de carbone, c'est pas ça l'idée. Mais ça peut nous permettre de ralentir l'effet et en tout cas d'avancer vraiment vers des solutions pérennes pour limiter les dégagements de gaz à effet de serre.
Ouais, et peut-être comment on fait pour augmenter le stock de carbone dans le sol?
Ah, très bien, c'est exactement. Alors là, on dirait qu'on a préparé la chronique ensemble.
Alors que non.
Mais si. Donc, comment on stocke plus de carbone dans le sol? Eh bien, c'est pas compliqué. Il y a des solutions qui sont applicables à peu près à beaucoup d'échelles. La première des solutions, c'est il faut pas laisser le sol nu. Et il faut moins travailler le sol. Donc, notamment, privilégier les techniques sans labour. Donc là, on va maintenir la végétation et le niveau de l'accaparement du carbone par le sol va se faire, et on va enrichir le sol en carbone. Il faut aussi... introduire plus de cultures intermédiaires dans les grandes exploitations de monoculture, etc., ou dans des exploitations, on va dire, entre guillemets, plus traditionnelles, type vigne et tout. Il ne faut pas hésiter à introduire davantage de cultures intermédiaires entre les rangs, de laisser de la végétation, des bandes enherbées. Ça, c'est vraiment dans l'idée d'avoir aucun sol nu. Et là, on contribue à enrichir le sol en carbone. Il faut mettre des haies partout où on peut, en bordure des parcelles agricoles, rajouter des haies. et puis planter des forêts. Il faut aussi optimiser la gestion des prairies, notamment allonger les durées de pâturage, c'est-à-dire reculer les dates de fauche. Et il faut aussi surtout restaurer les terres qu'on a dégradées. Alors, chez nous, mais aussi ailleurs, notamment dans les zones arides ou semi-arides du globe. Donc voilà, il y a quand même pas mal de leviers qui comptent pour que le sol devienne un acteur réel de la lutte contre le changement climatique. Ça, on parle à raison des voitures, on parle des usines, c'est bien, on parle de la consommation d'électricité, etc., c'est bien, mais l'artificialisation du sol, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, c'est même parfois des objectifs, même si on essaye de les limiter, et c'est important de vraiment limiter fortement cette artificialisation. Décidément, je vais avoir du mal à
le dire. Le problème est difficile.
Ça concerne qui? Mais comme tu l'as compris, ça concerne évidemment le monde, principalement le monde agricole.
Ouais.
Donc, il faut savoir, sur la planète, il y a 570 millions de fermes, donc des gens qui cultivent la terre. Et 3 milliards de personnes qui vivent en zone rurale. Donc, ils pourraient mettre en place ces pratiques toutes simples. Alors, évidemment, dans les pays les plus démunis, c'est souvent des pratiques qui ont déjà lieu dans les méthodes d'agriculture traditionnelle. Mais dans les pays plus développés, où on fait de l'agriculture intensive à grande échelle, il y a des choses, sûrement des leviers des leviers à actionner qui auraient des répercussions très intéressantes. Alors, ça coûterait un peu d'argent de changer ça, de changer les méthodes, mais ça a été estimé à quelques dizaines de dollars par hectare.
Puis l'enjeu vaut le coup, quoi.
L'enjeu vaut le coup. Pour replanter des forêts et restaurer des forêts, c'est un peu plus cher, mais ça vaut vraiment le coup aussi.
Donc,
ça permettrait tout ça, pendant les 20 à 30 ans qui viennent, la mise en place de ces bonnes pratiques, hein, pendant 20 à 30 ans, ça permettrait vraiment de stabiliser les émissions de carbone dans l'atmosphère. Et ça donnerait un petit délai tout fin pour survivre et trouver des solutions vraiment effectives pour ce problème de changement climatique.
Ouais, le temps de construire notre fusée pour aller sur Mars.
Ouais, alors il faut pas espérer mais voilà, ces choses-là, ces calculs-là, évidemment, ils s'appuient sur beaucoup de documentation scientifique, hein, mais il y a encore beaucoup de recherches à faire sur les fonctionnements du sol, les typologies des sols et puis les méthodes de travail des sols, mais ça commence vraiment à se développer et j'ai espoir que dans les années à venir, même très rapidement, on puisse déjà dans les lycées agricoles former les jeunes un peu différemment à toutes ces nouvelles techniques. Donc il faut vraiment inciter les acteurs du plus concret, hein, donc les agriculteurs, ceux qui travaillent le sol, jusqu'aux politiques et puis jusqu'aux citoyens, à aller vers une agriculture toujours productive, mais hautement résiliente et plutôt fondée sur une gestion vraiment adaptée des terres et des sols. Et ça permettrait d'autant plus de créer des emplois et d'augmenter les revenus des gens qui travaillent le sol, en fait. Donc voilà, je voulais faire le zoom sur cette initiative du 4 pour 1000 qui est pas grand-chose, mais il y a des petits leviers à actionner pour qu'on puisse se donner un petit temps avant la grande catastrophe.
Bah, merci Benoît de mettre cette question un peu au centre de la chronique et de l'émission. Effectivement, ce que tu décris a l'air tout à fait faisable. Planter des haies, je crois que c'est jouable. On peut faire ça.
Oui, et puis limiter l'artificialisation, pratiquer le développement plutôt vertical. Je sais que c'est pas très tendance, mais il faut développer les villes, mais de manière plus raisonnable et les développer aussi vers le haut. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, on va pas avoir le choix. Hein. On ne peut pas étendre des zones, des quartiers pavillonnaires sur des centaines d'hectares autour des périphéries parce que c'est très consommateur de sol et y a beaucoup de voiries, beaucoup de routes et donc il va falloir vraiment trouver des solutions.
Le sol est une autre ressource.
Ouais, on peut chiffrer les services rendus par le sol. Il y a des gens qui l'ont fait, hein, j'ai pas ça en tête, mais on peut vraiment chiffrer ce que rapporte le sol, un sol fertile. Et c'est énorme. Et si on arrivait à mettre ça dans la balance par rapport aux destructions, aux investissements qui sont faits, qui détruisent les sols, je pense que ça nous ferait réfléchir autrement.
Ouais. Je crois que les vers de terre sont un des animaux les plus importants de notre planète. Ils ont digéré la planète plusieurs fois.
C'est ça. Et ils sont très importants et ils le seront. Il faut préserver le sol pour eux et puis pour tous les autres. Le sol, c'est un écosystème. Depuis des organismes microscopiques, des bactéries, des virus, jusqu'à des grosses bêtes comme les vers de terre, les taupes, etc.
Bon, tous ses amis, quoi, du sol.
Ah là, c'est ça.
Merci beaucoup, Benoît. Bon, on repart avec ces pistes de regarder les programmes politiques, ce qu'on mange, comment est travaillée la terre, des légumes.
Oui, il y a bientôt des élections, ouais. J'ai envie de dire aux auditeurs, interrogez les candidats pour avoir leur position sur ce problème d'artificialisation des sols. Et voilà, ça... Pour les gens qui sont sensibles à ça, ça peut être des pistes.
Ouais, et puis il y a plein de choses. Tu parlais de la vigne dans le Maine-et-Loire. Il y a aussi des personnes qui travaillent le sol de façon tout à fait intéressante et respectueuse.
Exactement.
Il y a des maraîchers, il y a des AMAP, voilà.
Oui.
Appelez-nous, on vous donnera les adresses.
C'est ça.
Bon, bah Benoît, merci beaucoup. Je vais quand même rendre l'antenne, car sinon, je serai vraiment très en retard avec cette émission. Merci à toi, on te retrouve dans 2 semaines.
Ah, dans 15 jours, bonne soirée.
Merci. Vous êtes maintenant au top sur la vie du sol. Saluez bien les vers de terre que vous croisez dans votre week-end, car c'était la dernière émission de cette semaine. Vous pouvez retrouver le podcast en ligne sur le site de Radio G, à la page de l'Oreille Curieuse, comme d'habitude. Nous, on se retrouve lundi, je suis désolée, on a un petit générique qui fait des siennes. Qui glitch, comme on dit, qui bug, c'est très désagréable. J'espère que vous survivez. On se retrouve lundi à 18h10 pour une émission réalisée avec Radio Campus Angers, nos confrères et consoeurs de Radio Associative à Angers. On mutualise, on met en commun nos deux quotidiennes à l'occasion des 100 ans de la radio en France. Donc rendez-vous à 18h10 pour cette spéciale. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vais vous faire basculer sur la programmation musicale de Radio G. Vous allez arriver en plein milieu d'un titre qui s'appelle Burning Peacocks, Avril, ou peut-être que c'est l'un ou l'autre. Allez, à lundi, très bon week-end.